La revue de presse internationale de Camille Magnard, bonjour.
Bonjour.
Camille, au Brésil, le président Jair Bolsonaro affrontait hier la première mobilisation de masse contre sa politique et cette fronde est venue des universités brésiliennes.
Et des centaines de milliers de professeurs, d'étudiants mobilisés contre leurs dirigeants d'extrême droite et les coupes budgétaires drastiques qu'il veut imposer à l'enseignement supérieur et à la recherche. Dans les pages du Correio, on prend la mesure de cette mobilisation, clairement la plus puissante qui se soit élevée contre Jair Bolsonaro depuis son arrivée au pouvoir le 1er janvier. À voir les photos prises hier soir dans le centre de Rio, par exemple, on comprend bien que le lieu commun de marée humaine a encore un sens. Et l'on a compté des rassemblements dans 241 villes du pays, des profondeurs amazoniennes aux métropoles côtières. Salut le Correio, toujours lui, qui livre cette estimation assez impressionnante. 1,5 million de manifestants pour donc défendre l'université brésilienne. Et ça ne semble pas devoir s'arrêter là. La principale organisation étudiante, l'UNE, appelle déjà à prolonger pour 30 jours le blocage national des campus.
Oui, on salue d'ailleurs les universitaires brésiliens, un grand nombre, se sont émus directement par mail en nous disant quelle était la situation. Les sciences humaines sont très importantes au Brésil. Il y a une grande tradition de sociologie avec la sociologie française, notamment Auguste Comte, qui est très connu là-bas. Je le dis notamment parce qu'il y a un grand sociologue dans ce studio, Dominique Cardon, et donc on va parler de sociologie. C'est une discipline qui nous est chère, Camille. Autre chose à se demander, ce que Jair Bolsonaro et son ministre de l'Enseignement, Abraham Weintraub, ont bien pu faire pour soulever une telle colère.
Et oui, sur ce point, la Veja est plutôt indulgente. Elle pointe les erreurs de communication, de pédagogie de la part du gouvernement brésilien pour faire accepter ces coupes dans les budgets des universités fédérales. 30% de dotation en moins, forcément, c'est dur à faire avaler. Surtout, comme nous l'explique Mailson de Nobrega dans la Veja, quand on vise au départ trois universités seulement, Brasilia, Bahia et Rio, accusées toutes trois d'être trop chahuteuses par le ministre. Il a eu beau essayer d'expliquer ensuite à coup de calculs douteux que la baisse des budgets serait de 3,5% plutôt que 30% au départ, que toutes les universités du pays seraient concernées et pas seulement les trois les plus contestataires pour les punir. Le mal était fait, tout le monde avait compris que Jair Bolsonaro et les siens étaient lancés finalement dans une croisade clairement idéologique. Ce gouvernement a choisi l'éducation comme principal ennemi dans sa guerre contre des moulins imaginaires. C'est l'analyse de deux universitaires publiée dans l'Estadão de São Paulo. L'université, pour les dirigeants, les nouveaux dirigeants néofascistes du Brésil, c'est l'antre du grand démon nommé le marxisme culturel. On est en fait dans le même registre que quand Bolsonaro annonçait que les facultés de philosophie et de sociologie ne seraient désormais plus subventionnées par l'État parce qu'elles ne permettaient pas, je cite, un retour sur investissement immédiat. Il fallait donc ça pour que le Brésil, ou en tout cas ses étudiants, ses professeurs, ses chercheurs, se mobilisent en masse hier, enfin en masse, pas pour Jair Bolsonaro lui-même, interrogé hier soir par la chaîne de télé du groupe Globo.
É natural, militante, tem nada na cabeça, não sabe nada. São uns idiotas úteis, uns imbecis.
Tout ça, ce ne sont que des militants qui n'ont rien dans la tête, des idiots utiles à la solde d'une petite élite intellectuelle qui veut garder son emprise sur les universités fédérales. Voilà donc l'analyse du président brésilien. Mais tout de même, 1,5 million d'idiots utiles qui descendent dans les rues, ça redonne de l'espoir dans l'édition brésilienne d'El País à la journaliste et documentariste Eliane Broom. Ce n'est pas un hasard, dit si la première contestation de masse de Jair Bolsonaro vient des universités, le lieu par excellence de l'affirmation individuelle et collective, du débat, du dialogue, en un mot du mouvement, autant de raisons pour lesquelles le président se sent menacé par cette université qu'il s'emploie à détruire. Une forme de résistance collective serait donc née hier, c'est en tout cas ce que veut croire Eliane Broom, qui exhorte chaque citoyen conscient à cesser de se regarder le nombril sur les réseaux sociaux et à la rejoindre dans les rues pour affronter enfin la tyrannie qui menace le Brésil. Quant à Jair Bolsonaro, eh bien, vous avez entendu sa réaction tout à l'heure.
Et oui, et aux Philippines, on attend toujours les résultats officiels des élections de mi-mandat qui se sont déroulées lundi.
Mais sans grande surprise, hein, c'est une victoire qui s'annonce pour le camp du président Rodrigo Duterte. Il devrait voir sa majorité encore renforcée au Sénat, compter toujours plus d'élus locaux de son bord à travers l'archipel et donc avoir les coudées franches pour imposer ses prochaines réformes. Au hasard, le rétablissement de la peine de mort, par exemple. Et Duterte a une autre raison de se réjouir, selon la Nikkei et Jeanne Rivière. View. C'est la place toujours plus importante que prend sa fille, Sara Duterte, dans le sillage de son père. L'homme fort des Philippines, nous explique-t-on, est de plus en plus indissociable de sa forte femme de fille. Elle s'est fait connaître en 2011 quand elle a roué de coups devant des caméras et au milieu d'une foule un chef local de la police dans sa ville de Davao, au sud du pays. Davao, c'est le fief politique des Duterte, où Sara sort encore renforcée de la dernière élection de lundi. Elle confesse au Manila Standard qu'elle a pleuré de joie, oui, hier, quand elle a appris que les électeurs de sa région avaient plébiscité les candidats de son mouvement politique. Car oui, la jeune femme a son propre parti qui s'est permis de présenter ses candidats parfois face à ceux investis par son père, mais en expliquant toujours bien sûr clairement qu'elle soutenait sans réserve la politique paternelle. Et cette stratégie de rivalité, au moins en façade, elle interroge le site d'info alternatif Rappeleur, qui y voit pour Sara Duterte une manière de montrer les muscles politiquement parlant, d'affirmer qu'elle n'est pas seulement une marionnette actionnée par son père. Ça a apparemment convaincu les électeurs de Davao, cette ville donc dont Rodrigo Duterte a été le maire pendant 20 ans et où Sara vient d'être réélue pour un troisième mandat. Mais la politique aux Philippines, c'est une affaire de dynastie, de famille, et Rappeleur nous le confirme. Lundi, en plus de Sara, deux autres Duterte ont été élus. Le plus jeune, Basté, comme vice-maire, et l'aîné, Paolo, comme chef du pouvoir législatif local. Pourtant, c'est bien leur sœur, Sara, qui continue de faire parler d'elle dans la presse. L'Asian Nikkei Review lui prête, comme beaucoup d'autres, des ambitions présidentielles pour 2022, quand son père ne pourra pas se succéder à lui-même. Rodrigo Duterte a déjà dit qu'il n'autorisera pas sa fille à être candidate. Reste à savoir si elle lui demandera la permission.
Merci beaucoup, Camille Magnard.